Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, le gouvernement sous pression à propos des migrants de Calais. Hier, une personne est morte percutée par un train. Le médiateur envoyé par le gouvernement ne parvient que partiellement à apaiser le climat. Plus 100 000, c'est le nombre de créations nettes d'emplois au troisième trimestre. L'embellie se confirme. Le jour des jeunes à Glasgow, manifestation ce vendredi à la COP26. Les scientifiques abordent eux la question des océans dans le dérèglement climatique, la mobilisation pour le climat, les océans. On en parle avec le navigateur François Gabart qui s'apprête à prendre le départ de la Transat en double Jacques Vabre. 20% de lits fermés dans les hôpitaux, faute de personnel. Selon le conseil scientifique, comment réformer le système de santé français, les moyens accordés à l'hôpital, le lien avec les soignants en ville. Notre invité à 13h30 est le professeur André Grimaldi, fondateur du collectif Interhôpitaux. Il publie Manifeste pour la santé 2022. 01 45 24 7000 est l'appli France Inter pour vos questions et témoignages, que vous soyez patient ou soignant à l'hôpital ou ailleurs. Dans l'actualité encore, une femme nommée à un très haut poste au Vatican. Partira ce week-end ou pas, Thomas Pesquet dans l'incertitude à bord de la station spatiale. 25 ans de déclaration sexiste d'Éric Zemmour, dossier sur franceinter.fr. Vos rendez-vous dans le 13-14, le feuilleton dans un tiers-lieu de Sainte-Foy-la-Grande. Le vif de l'histoire, il y a 100 ans, le procès Landru. Et dans C'est une chanson, le nageur Yannick Agnel est avec Frédéric Pommier. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter, le 13-14.
La situation des migrants à Calais devient chaque jour un peu plus un sujet politique. Depuis le début de l'année, 40 000 personnes sont arrivées dans le Nord pour essayer de passer en Angleterre, c'est le chiffre global. Aujourd'hui, le débat se concentre sur un millier de personnes. Priorité du gouvernement, éviter la reconstitution d'une jungle, ce vaste camp où quelques 10 000 personnes vivaient dans des conditions précaires. Priorité des associations, éviter l'expulsion de ces hommes et femmes, bien souvent déboutés du droit d'asile. Hier, un événement tragique est venu accroître l'urgence. Une personne morte, percutée par un train, alors qu'elle marchait dans le quartier Beaumarais à Calais. La médiation mise en place par le gouvernement n'a pas permis pour l'instant de mettre tout le monde d'accord. Deux militants en sont au 26e jour de grève de la faim. Ce matin, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, était l'invité de France Inter. Il présentait avec le délégué général de la Fondation Abbé Pierre le pacte du pouvoir de vivre, un programme en quelque sorte à moins de 6 mois de la présidentielle qui parle aussi de la question de la migration. Et Laurent Berger est en colère à propos du blocage à Calais.
Il faut à tout prix renouer le dialogue avec les associations. C'est pas possible d'avoir une espèce de contrainte permanente mise sur les associations qui viennent en aide de façon humanitaire à ces migrants. Et donc il faut d'abord permettre à ces associations de faire ce travail qui est le travail basique, j'ai envie de dire, d'accueil. Quand des femmes et des hommes s'engagent au service de l'humanité, de l'humanisme, avec des valeurs pour aider des personnes migrantes, il faut arrêter de les suspecter. Et il faut les laisser faire ce qu'elles ont à faire, en lien, en discussion, en accord avec l'administration et avec les pouvoirs publics, mais pas en donnant le sentiment qu'on serait en combat les uns contre les autres. Ensuite, on voit bien que les règles qui régissent aujourd'hui la migration en Europe, elles sont totalement obsolètes. Il faut leur permettre d'accéder davantage aux droits d'asile. Ce qui est fait aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, il y a une grève de la faim, de personnes du Secours catholique qui est membre du pacte du pouvoir de vivre. Ce qui est fait, ce qui se passe aujourd'hui à Calais est insupportable. Il faut revenir à un peu de raison et je crois que
le médiateur n'apporte pas de la raison.
Il va falloir qu'il en apporte. Pour l'instant, c'est pas le cas.
Laurent Berger avec Nicolas Demorand ce matin sur France Inter. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Le service politique de France Inter, le secrétaire général de la CFDT, donc, mais aussi des adversaires politiques demandent, voire exigent du gouvernement qu'il soit plus efficace à Calais.
En premier lieu, Xavier Bertrand, président de cette région des Hauts-de-France, qui accuse sur France Inter Emmanuel Macron de n'avoir rien fait depuis 5 ans. Alors évidemment, le candidat à l'investiture LR trouve dans cette crise une opportunité politique. Justement, il était hier dans le Calaisis pour clamer sa volonté de reprendre le contrôle de l'immigration, mais il pointe aussi et surtout le danger que représente cette crise pour l'exécutif sur un sujet, et les membres du gouvernement eux-mêmes le reconnaissent en privé, qui ne sera jamais considéré comme un marqueur fort de la politique macronienne. Le président se garde donc bien d'intervenir pour l'instant, l'Élysée se contentant de renvoyer au ministère de l'Intérieur. Et chez Gérald Darmanin, on rappelle simplement qu'un médiateur, vous en parliez à l'instant, a été envoyé sur place par le gouvernement. Emmanuel Macron et ses ministres ne veulent pas surréagir à chaud. Le chef de l'État entend négocier négocier un nouvel accord migratoire entre l'Europe et le Royaume-Uni lors de sa présidence de l'UE en début d'année prochaine. Reste que d'ici là, il risque bien de se retrouver pris en étau sur ce dossier de Calais. Les deux militants en grève de la faim depuis 26 jours maintenant adressent aujourd'hui une lettre ouverte au président pour lui demander, je cite, de mettre fin au harcèlement des migrants.
À la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 est encore et toujours en hausse au-delà des 7000 points, 7039 à l'instant, en hausse de 0,75%. Plus de 7000, c'est un record absolu dans l'histoire de l'indice. Et derrière cette hausse, il y a de bons résultats d'entreprise et les banques centrales qui ne comptent pas pour l'instant remonter les taux d'intérêt malgré la hausse des prix. Autre chiffre clé de la matinée en matière d'économie, le marché de l'emploi confirme son dynamisme. Près de 100 000 créations nettes entre juillet et septembre. Il y a plus de salariés qu'avant la pandémie. L'intérim continue de se redresser. Seul l'emploi industriel reste dans le rouge. Commentaire d'Éric Heyer, qui est économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques.
L'hypothèse la plus probable, c'est qu'un certain nombre d'entreprises qui auraient dû licencier ne l'ont pas fait parce qu'elles savent qu'il y a des difficultés de recrutement aujourd'hui. Donc si demain elles devaient se remettre à recruter, elles auraient des difficultés pour retrouver de la main-d'œuvre qualifiée. Donc elles préfèrent aujourd'hui maintenir du sureffectif parce qu'elles anticipent une reprise assez forte dans les mois trimestres à venir. Et donc ça veut dire que si tel était le cas, ça veut dire que la croissance à venir ne va pas générer beaucoup de création d'emplois puisqu'elles vont utiliser ce sureffectif d'aujourd'hui pour la croissance de demain. Et donc ça veut dire que, attention, il ne faut pas s'attendre à avoir systématiquement des trimestres avec autant de création d'emplois. On devrait même, petit à petit, avoir une croissance beaucoup moins riche en emplois. Donc aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle, mais qui devrait être un peu moins bonne dans les trimestres à venir.
Propos recueillis par Laurent Kramer, les bons chiffres de l'emploi et les pénuries de main-d'œuvre posent depuis la rentrée la question des hausses de salaire. Dans l'hôtellerie, améliorer les conditions de travail, oui, mais payer plus, c'est non, dit le PDG du groupe Accor ce matin. La politique et cet éclairage sur franceinter.fr. Article, livre, discours, 25 ans de sortie sexiste d'Éric Zemmour. C'est donc à lire et écouter sur notre site internet. Par exemple, cet extrait, 26 mars 2013, sur le plateau de BFM TV avec Ruth Elkrief.
Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes.
Mais bien sûr que si, sinon il se dilapide. Les femmes sont les régentes. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir. Et quand
les féminines, elles sont incompatibles avec
Elles sont incompatibles avec, oui, l'incarnation du pouvoir.
25 ans de sortie sexiste d'Éric Zemmour, c'est sur franceinter.fr. Dans l'actualité encore, Didier Raoult devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins ce matin. Sanctions ou pas, et lesquelles pour l'homme accusé d'avoir enfreint le code de déontologie en promouvant l'hydroxychloroquine. L'audience est terminée. Arrêt sur audience, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec le procès des attentats du 13 novembre. Dans ce journal, chaque vendredi, retour sur les faits, les mots, les images marquantes de la semaine, les à côté du procès aussi, avec nos deux envoyés spéciales, Charlotte Piret et cette semaine, Sophie Parmentier. Bonjour Sophie.
Bonjour Bruno.
En direct du palais de justice de l'île de la Cité avec Geoffrey Marianne. Après les très très nombreuses audiences où les victimes ont témoigné, depuis lundi, la parole est aux accusés. 14 sont présents à l'audience, ce sont les interrogatoires de personnalité. Et une chose vous a marqué, Sophie, c'est que tous ces hommes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ont eu des enfances normales, voire heureuses.
Oui, c'est notable et un peu rare en fait, il faut dire, dans les procès d'assises, on est un peu habitué au récit d'accusés à l'enfance cabossée. Et bien là, la plupart des accusés, en effet, ont décrit une enfance heureuse, peut-être à part l'accusé Ousmane, l'accusé pakistanais qui a perdu son père si jeune qu'il a oublié son visage. Tous les autres ont parlé de familles pleines d'amour, quel que soit le pays dans lequel les accusés ont grandi, puisque certains ont grandi en Algérie, au Pakistan, en Suède et puis bien sûr en Belgique, à Molenbeek. Et donc des enfances heureuses avec des fratries plus ou moins grandes, des familles où on manquait de rien en fait. Alors des accusés avaient des pères couturiers, comptables dans un port, maçons, mères au foyer pratiquement pour tout le monde, mais des familles qui semblaient structurées avec le goût du travail selon les accusés qui, encore une fois, même si personne ne roulait sur l'or, certains dormaient à 6 enfants dans une seule chambre, et bien, en tout cas on manquait de rien, il y avait a priori ce goût du travail, et d'ailleurs plusieurs accusés ont dit qu'ils étaient bons élèves, studieux, Salah Abdeslam lui-même, mais la plupart ont arrêté leurs leurs études avant le bac.
Et les récits de victimes lourds, éprouvants, pleins de larmes ont duré pendant 5 semaines avant cette semaine-ci. Est-ce que ça a changé l'ambiance au procès, Sophie, le ton, voire l'attitude des accusés?
Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on n'avait presque pas entendu les accusés jusqu'alors, après, à part Salah Abdeslam, qui, vous le savez, avait été revendicatif dès le début de son procès, laissant parfois éclater sa colère. Et Salah Abdeslam, eh bien, a été d'un calme presque surprenant, en fait, lors de cet interrogatoire de personnalité, parlant d'une toute petite voix, presque douce, comme le président, d'ailleurs, qui lui posait des questions. Et ça, c'était un changement notable. Alors, est-ce que c'est lié au récit bouleversant des partie civile qu'il a entendu avant, eh bien, on ne le sait pas. En tout cas, ce changement-là, pour les autres, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait en tout cas plusieurs interrogatoires extrêmement maîtrisés. Par exemple, l'accusé Bakali, qui lui aussi avait un ton très très calme et ne se laissant pas faire face aux avocats généraux. Et c'est difficile, en fait, de savoir s'il y a eu une influence des récits qu'ils ont entendus. Je me demande parfois, mais c'est tout à fait personnel, si il n'y a pas un double visage. Oui. En tout cas, plusieurs accusés ont eu des mots pour les victimes, ont dit qu'ils avaient été bouleversés. Ils ont dit aussi beaucoup qu'ils souffraient de leurs conditions de détention à l'isolement, mais ils précisaient que, bien sûr, ils voulaient pas du tout comparer cette souffrance avec celle des victimes. Et en même temps, c'était difficile de savoir si c'était pas une
part de
posture,
dissimulation, oui.
Une part de dissimulation et de posture pour ces interrogatoires où ils avaient la parole, en fait.
À propos de l'ambiance, Sophie, vous avez noté un détail. Pour la première fois, on a entendu des rires cette semaine dans la salle.
Alors ça, c'est sûr qu'on n'en avait jamais entendu, et c'était frappant après ces longues semaines où il y avait beaucoup de larmes et de douleurs. Et bien là, on a entendu les premiers rires. Alors, au dépens de quelques accusés, je vous donne un exemple. L'accusé Abrini qui parlait de son addiction au jeu, au casino, qui disait qu'il aimait bien la roulette russe. Et donc le président s'est marré en lui disant « Mais non, la roulette russe, c'est pas la même. En fait, on n'a pas beaucoup de chances de rejouer. » Donc là, la salle a rigolé. La salle a rigolé aussi quand Salah Abdeslam a expliqué qu'il avait fait aucune demande de mise en liberté parce que il avait du mal. Imaginer qu'on allait le lâcher, et lui-même en fait avait les yeux rieurs au moment où il disait ça, donc c'était difficile de savoir pour lui aussi ce qu'il pensait réellement. Une dernière chose peut-être que je voudrais ajouter, c'est qu'en fait, ces interrogatoires ont été limités, il n'y a eu aucune question sur la religion, aucune question sur les faits, il y a quelque chose d'un peu frustrant en fait dans les réponses qu'ils ont pu donner aux questions très, très serrées.
Mais il y a encore de longues semaines d'audience. Sophie Parmentier, vous nous les ferez vivre avec Charlotte Piré. Vous étiez en direct du Palais de Justice de l'Île de la Cité à Paris avec Geoffrey Marianne pour France Inter. Direction Glasgow à présent, les chefs d'État et de gouvernement, les scientifiques et les militants à la conférence climat. C'est le cinquième jour et c'est le jour des manifestations de la jeunesse avec Greta Thunberg en tête d'affiche. Avant le défilé, parole de manifestant Eric Njuguna. Il est kényan, il a 19 ans, il n'attend pas grand-chose de cette conférence climat et c'est ce qui le met en colère.
Je ne suis pas venu à la COP26 parce que je pensais qu'il allait se passer quelque chose, mais parce que je voulais voir en vrai comment les leaders du monde détériorent la vie des autres, comment ils prennent les mauvaises décisions et comment ils jouent avec la vie des autres, parce que leurs décisions menacent des vies, parce que le changement climatique nous touche déjà, nous, dans le Sud. Là, on est à la COP26, toutes les précédentes ont été un échec, et celle-là, ce sera la même chose.
Voix off, Étienne Monin, ce manifestant est kényan. Un pays est particulièrement touché par le réchauffement climatique, c'est l'Irak, cinquième pays le plus touché au monde, selon les Nations Unies. Dans les campagnes autour de Bagdad, les agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur travail et ils envisagent de partir. Reportage France Inter, Lucille Wasserman.
Il est 7h du matin et Talab Amin, 68 ans, chevauche son vieux tricycle rouge monté d'une remorque poussiéreuse, direction son champ, ou plutôt ce qu'il en reste.
Cette année, notre production est passée de 70 à 20%. Dans le passé, on pouvait planter n'importe quoi, mais aujourd'hui non, car il fait trop chaud et il n'y a pas assez d'eau, alors tout meurt.
L'Irak vit sa deuxième saison la plus sèche depuis 40 ans. Tous les étés, les températures dépassent les 50 degrés. Quant à l'eau, elle se fait de plus en plus rare, explique Taleb en s'approchant d'une pompe très rudimentaire.
On a construit ça, mais ça ne fonctionne pas toujours à cause des coupures d'électricité dans le pays.
Résultat, les terres deviennent incultivables et les propriétaires préfèrent s'en débarrasser au plus vite. Le cher Mohamed, à qui appartient les champs cultivés par Taleb, y pense aujourd'hui, dit-il.
On dépense tout notre argent pour faire pousser ces fruits. Alors les propriétaires préfèrent raser leurs champs, les diviser en portions et les vendre pour construire des bâtiments.
Les terres agricoles se réduisent comme peau de chagrin en Irak et avec elles, les matières premières du pays. Quant aux habitants, ils fuient déjà vers les villes ou vers ailleurs, où le réchauffement climatique n'est pas encore devenu insupportable. Bagdad, Lucille Wasserman, France Inter.
Aujourd'hui à la COP26, une série de scientifiques aborderont la question du rôle des océans dans le dérèglement climatique. Les océans sont des climatiseurs naturels, capteurs essentiels de CO2, émetteurs d'oxygène. La moitié de l'oxygène produit sur cette planète vient des océans. Le réchauffement impacte les océans et à l'inverse, leur dégradation accélère le réchauffement. Avec nous, un homme qui passe une bonne partie de sa vie sur les océans, le navigateur François Gabart, qui s'apprête à prendre le départ de la Transat en double Jacques Vabre. Ce sera dimanche au Havre. Bonjour François Gabart.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes en duplex du Havre grâce aux moyens techniques de Nicolas Mathias. On parle de la Transat, hein, promis dans un instant, et de votre bateau toujours plus impressionnant. Un mot d'abord de cette actualité à laquelle je sais vous êtes attaché, la COP26. Au fond, il y a deux choses qui nous préoccupent lors de ces grands sommets. Que peut-on attendre et que peut-on faire chacun d'entre nous contre le dérèglement climatique? Aujourd'hui, la jeunesse se mobilise à Glasgow pour mettre la pression sur les dirigeants. C'est à chacun d'entre nous, François Gabart, citoyen ou figure médiatique comme vous, se sentir responsable de la situation.
Oui, j'en suis convaincu. En effet, je pense qu'il ne faut pas attendre quelque chose de la COP26. Il faut réagir, c'est-à-dire agir, nous, quelle que soit notre casquette. Donc ça peut être en effet en tant que citoyen, ça peut être en tant que chef d'entreprise, ça peut être en tant que père, mère de famille, enfant. Bref, on doit en fait tous, je pense qu'il ne faut pas attendre quelque chose. À la limite, c'est la cerise sur le gâteau si la COP26 nous sort quelque chose d'extraordinaire. Il faut agir et être dans l'action. Alors évidemment la COP26, moi j'ai beaucoup d'optimisme, hein, quand même. Je pense évidemment que les grandes semondes au niveau politique ont des choses à faire pour aider à lancer cette révolution qui est nécessaire devant nous, mais on ne peut pas compter que sur ça. Et on est tous responsables de la situation dans laquelle on est tous responsables des solutions que l'on doit trouver pour faire face à ce challenge face à nous qui est énorme. Et voilà, il faut juste se mettre dans l'action et pas attendre.
Et alors vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire, quoi? Utiliser la technologie omniprésente sur vos bateaux pour qu'ils soient toujours plus autonomes en énergie?
Oui, alors ça, c'est moi, sur ma casquette de chef d'entreprise, où en effet, mon métier est de faire la course au large. Depuis que je suis tout petit, j'essaie de me déplacer d'un point A à un point B le plus rapidement possible en utilisant l'énergie du vent. Et mon sujet aujourd'hui, c'est se dire comment faire pour que toutes les innovations qu'on génère par ce sport qui est la course au large, comment ils pourraient nous servir pour trouver des solutions de mobilité dans le monde maritime, en sachant, en utilisant peut-être justement demain le vent, quand on l'a utilisé pendant des siècles se déplacer sur la planète. Comment on pourrait faire pour, avec les innovations qui sont générées par nos bateaux, pour utiliser à nouveau le vent un peu plus que ce qu'on fait, voire complètement. Ça fait partie des sujets que je voudrais creuser avec mon entreprise.
Alors, ce navire SVR, la Zartigue, allons-y pour cette transat entre le Havre et la baie de Fort-de-France. Vous êtes inscrit dans la catégorie ultime, les géants des mers. Le bateau fait 32 mètres de long, 23 de large. Particularité, la plateforme, le pont qui est presque lisse, rien ne dépasse. Au fond, votre cockpit, il est dans la coque quasiment, c'est ça?
Ouais, on a essayé de travailler sur l'aérodynamisme du bateau. Ces nouveaux bateaux sont assez révolutionnaires. Ils volent sur l'eau, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des feuilles, comme des ailes d'avion. On s'appuie dans l'eau pour s'élever au-dessus de l'eau. L'enjeu, c'est de frotter le moins possible. Et ce qui est extrêmement intéressant, encore une fois, parce que on frotte moins, donc ça veut dire qu'avec la même énergie captée par le vent, on peut aller plus vite. C'est quand même une révolution qui est majeure, qui a entrée d'énormes modifications dans notre sport. Les bateaux allant plus vite, on a des vents face à nous qui sont de plus en plus forts. Et il faut qu'on travaille sur l'aérodynamisme, c'est-à-dire la pénétration dans l'air de notre bateau. C'est le trimaran SVR Lazartigue qui est révolutionnaire par rapport à ça. Il a vraiment il y a rien qui dépasse, quoi. Grosso modo, le cockpit est dans la coque centrale et on arrive à avoir une forme de bateau qui frotte le moins possible dans l'air qui va rencontrer.
Et alors, on a vu les foils, notamment au Vendée Globe. On a l'habitude pour les monocoques, pour un trimaran, ça les rend particulièrement difficiles à piloter. Là, vous avez un volant, vous n'avez pas une barre, vous avez un volant. Ça donne des bateaux difficiles à manœuvrer?
Alors, parfois, oui, la vitesse, forcément, engendre des difficultés. Il faut comprendre qu'on peut aller à des vitesses qui sont de l'ordre de 70, 80, 90 km à l'heure. Et ce que je rappelle, c'est qu'on est sur la mer avec des vagues et ça bouge dans tous les sens. Imaginez-vous dans une voiture à 80, 90 km à l'heure, c'est pas extrêmement rapide. Mais si vous passez un dodane qui va faire 20 cm de haut, vous allez quand même vous faire bien secouer. Donc, imaginez être à la même vitesse sur de la mer avec des vagues de 1m50, 2m, parfois beaucoup plus. C'est une des difficultés de notre sport. Et donc, c'est pas simple, évidemment, d'aller à ces vitesses-là. On a en effet un volant dans le... Je vais prendre la voiture. Oui. On a un volant dans le trimaran Esvair-Lazartig qui nous permet, avec une commande électronique, de piloter le bateau dans un espace qui est parfaitement protégé, dans le cockpit du bateau. Et c'est vrai que c'est une innovation qu'on a générée pour être capable de piloter le bateau dans un endroit qui est complètement protégé.
Ça fait une traversée de l'Atlantique en combien de temps, idéalement ?
Alors, on traverse pas directement l'Atlantique, on fait un petit détour dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire qu'on va aller tourner autour d'un archipel au large du Brésil, à la hauteur à peu près de Rio de Janeiro. Donc on va dans l'hémisphère sud, on y va assez franchement, on va descendre un peu dans l'Atlantique sud et puis ensuite on va remonter vers la Martinique, ce qui nous fait 7 500 milles, environ 13 000 kilomètres. Ça fait un joli parcours et donc on devrait... A priori, il nous faudrait 2 semaines pour faire l'intégralité du parcours.
Vous avez, j'imagine, une idée précise de la météo dimanche, ça ressemblera à quoi ?
Alors la météo dimanche, on commence à avoir une petite idée. En effet, on a du vent de nord-ouest. C'est pas tempétueux, il y a du vent et rien de très fort. Les premières 24-48 heures de course risquent d'être plutôt avec du vent relativement faible dans la Manche. Après, par contre, il y a encore pas mal d'incertitudes sur le déroulé de la course, sur nos trajectoires et sur le vent qu'on va rencontrer plus milieu ou fin de semaine prochaine.
Merci François Gabart d'avoir pris quelques minutes pour France Inter et bon vent à vous. Vous êtes en double sur cette Transat avec Tom Laperche dans la catégorie ultime. En bref, les sports, c'est le tennis aussi aujourd'hui. Les quarts de finale de Bercy, les numéros 1, 2 et 4 mondiaux sur le court. Djokovic, Medvedev face aux Français Gaston et Zverev.
France Inter. Le 13-14, Bruno Duvy.
Une femme a un poste clé au Vatican. La sœur franciscaine Raffaella Petrini est nommée à la tête du gouvernorat du Vatican à Rome, Olivier Tosserie.
Elle est devenue le symbole de la féminisation grandissante de l'Église catholique. Raffaella Petrini, religieuse franciscaine de 52 ans, occupe pour la première fois un haut poste réservé jusqu'ici à un évêque. En tant que secrétaire générale du gouvernorat du Vatican, elle sera chargée de superviser les opérations administratives, notamment les musées du Vatican, la poste et la police. Un choix qui n'est pas qu'une opération de communication. Raffaella Petrini peut se vanter d'un très sérieux bagage académique. Cette politologue dans une prestigieuse université romaine détient un master en sciences de comportement organisationnel acquis aux États-Unis. Le pape ne cesse de déclarer qu'il veut voir les femmes jouer un rôle plus important au sein de l'Église catholique. Les nominations importantes se sont multipliées au sein de la hiérarchie de l'État du Vatican cette année et la loi a été modifiée pour permettre aux femmes de servir comme lectrices lors des liturgies, serveuses d'hôtel et distributrices de communion. Pas question néanmoins qu'elles puissent devenir prochainement prêtres, mais à défaut de devenir féministes, le Vatican veut prouver qu'il n'est plus misogyne. Rome, Olivier Tosserie. France Inter.
Faire plus de place aux femmes dans une église secouée régulièrement par les scandales sexuels à Lourdes, c'est lundi matin prochain que les évêques diront comment ils entendent appliquer le rapport Sauvé. Ils sont réunis depuis le début de la semaine. Une déclaration importante d'ores et déjà ce matin de la part du président de la conférence des évêques, Monseigneur Éric de Moulin Beaufort. La question de la responsabilité de l'église. Le son n'est pas très bon, mais les propos sont vraiment importants.
Nous avons vérifié que nous étions bien tous d'accord pour reconnaître la responsabilité institutionnelle de l'Église dans les violences qu'ont subies tant de personnes victimes, reconnaître la dimension systémique de ces violences, au sens où elles n'ont pas été le fait simplement de quelques individus, mais qu'elles ont été rendues possibles par un contexte général. Des fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein de l'Église ont permis que ces faits existent et surtout peut-être encore plus qu'ils se perpétuent ou en empêcher qu'ils soient dénoncés et sanctionnés. Et nous avons vérifié aussi notre accord pour affirmer que cette responsabilité entraîne un devoir de justice et de réparation. Et nous sommes conscients que ce passage-là est nécessaire pour entrer dans un chemin qui nous permet de demander pardon en vérité.
Reconnaître la responsabilité institutionnelle de l'Église, les propos du président de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin Beaufort, ce matin à Lourdes, propos recueillis par Delphine Evenou. Alexandre Benalla attend le jugement du tribunal de Paris. 18 mois de prison avec sursis ont été requis contre l'ancien chargé de mission de l'Élysée. 7 députés européens terminent aujourd'hui un séjour à Taïwan, séjour de 3 jours dans ce pays démocratique, indépendant de fait, mais revendiqué par Pékin. Les tensions sont de plus en plus perceptibles. La délégation conduite par le Français Raphaël Glucksmann a fait l'objet d'ailleurs de vives protestations de la part de Pékin. Précision sur place, Adrien Simor.
C'est la première visite officielle d'une délégation européenne à Taïwan. Une venue qui a pu avoir lieu grâce à un consensus parmi les parlementaires et ce, malgré les avertissements de la Chine. Raphaël Glucksmann à la tête de la délégation.
L'idée, c'était justement de briser une forme de tabou et de montrer que ces visites sont normales et que le monde ne s'arrête pas de tourner parce qu'il y a les protestations officielles de Pékin.
Cette visite a lieu alors que Taïwan fait face depuis plusieurs mois à une augmentation des manœuvres militaires chinoises à ses portes. Les députés portaient donc un message pour les Taïwanais.
We came here with a very clear message. You are not alone.
Vous n'êtes pas seul face aux pressions de la Chine. Voilà ce qu'a lancé hier Raphaël Glucksmann à la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, appelant à renforcer les liens entre l'Europe et Taïwan.
Il y a un enjeu de vision du monde, de principe. Il y a une démocratie à défendre contre un régime autoritaire. Plus on a de relations avec Taïwan, moins on a de chances que le régime chinois décide d'envahir Taïwan.
Sans surprise, Pékin a condamné hier cette visite et promis de réagir. Les parlementaires espèrent, eux, avoir ouvert la porte à de futures visites, avec ou sans la colère de la Chine. Taipei, Adrien Simor, France Inter.
Une décision de justice à 50 milliards de dollars. La Cour suprême des Pays-Bas annule une précédente décision qui obligeait la Russie à payer cette somme. Moscou soupçonnait d'avoir floué les actionnaires du groupe pétrolier Yukos il y a 7 ans. Le dossier est renvoyé devant la Cour d'appel des Pays-Bas. Partir ou rester tranquillement à la maison? Peut-être vous posez-vous cette question pour ce week-end, en ce vendredi. Un autre se demande de quoi sera fait son week-end. Sa particularité, c'est qu'il est à 400 mètres d'altitude. C'est Thomas Pesquet. Après 6 mois dans la Station Spatiale Internationale, sa mission touche à sa fin. Mais dans ce monde spatial de très haute précision, eh bien le moment de son départ est incertain. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
L'équipe est dans l'attente d'une décision de la NASA. Incertitude à cause de la météo, mais pas seulement.
Oui, c'est 400 km d'altitude, pas 400 mètres. Mais en effet...
C'est 10 mètres, oui, non, c'est un peu plus que ça.
Rarement la situation aura été aussi confuse. C'est la NASA qui est aux manettes et qui fixe le calendrier. Et ce, même si le vaisseau Crew Dragon, qui va ramener les 4 astronautes, appartient à SpaceX. Dans un premier communiqué, l'agence américaine rappelle les différents reports de l'équipage Crew Dragon 3, la relève. Considération météo d'abord, puis problème de santé mineur d'un des membres d'équipage. La règle veut en effet qu'un équipage ne quitte l'ISS que lorsque le suivant est arrivé et qu'une passation a pu se faire. Mais cette fois-ci, il semble bien que Thomas Pesquet et ses 3 collègues redescendent sur Terre avant l'arrivée des copains. Désamarrage dimanche ou lundi, alors que la prochaine opportunité de lancement des successeurs est mardi 9. Une des raisons, c'est la durée de vie des capsules. Elles sont certifiées pour 210 jours sur le plan de la sécurité et on quitte la station avec le véhicule qui vous a amené. Dans le cas présent, le Crew Dragon 2 est encore loin des 210 jours. Est-ce qu'il y a une raison personnelle donc qui concernerait un des 4 astronautes? On ne sait pas. C'est peut-être ce qui explique cet imbroglio d'agenda. En tout cas, dans les prochaines heures, la NASA dira si elle donne la priorité à l'équipage montant ou descendant. En tout cas, il se peut que dans cette station, eh bien, il n'y ait bientôt plus que 3 personnes, 2 Russes et 1 Américain.
À 400 km donc, et on retourne dans le ciel dans un instant.
Le progrès, c'est quoi? Le progrès pour une entreprise, c'est savoir se renouveler, se réinventer. C'est être capable de sortir de sa zone de confort pour affronter les difficultés ou répondre à de nouveaux défis. Ada Gerchouch est handicapée. Être en dehors de sa zone de confort, c'est son quotidien.
Je m'appelle Ada, je suis coach en entreprise. Le progrès, c'est moi.
AGFIP, ensemble, montrons que les personnes handicapées font progresser les entreprises. Du 15 au 21 novembre, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Témoignez de votre engagement sur activateurdeprogrès.fr.
Le temps de ce jour.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Retour au calme cet après-midi.
Oui, après les conditions agitées des derniers jours, le pays se retrouve sous l'influence d'un anticyclone situé sur le proche Atlantique. Alors, quelques averses résiduelles pourront encore se faire remarquer cet après-midi, mais elles deviendront de plus en plus isolées entre le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et le Massif central. Les averses seront en revanche plus régulières sur les Pyrénées avec une limite pluie-neige vers 1100 mètres d'altitude. Et puis sur le reste du pays, c'est surtout un temps sec qui vous attend cet après-midi. Mais ce temps sec ne veut pas forcément dire ensoleillé puisque les nuages resteront prédominants cet après-midi entre les plaines du Sud-Ouest, le Limousin, l'Auvergne et le quart Nord-Est. Le soleil sera lui bien généreux sur le pourtour méditerranéen et entre la Charente-Maritime, les Pays de la Loire, la Normandie et l'ouest du bassin parisien. Et puis le ciel sera un peu plus variable avec des éclaircies tout de même assez belles entre la Bretagne ainsi que sur l'ouest des Hauts-de-France et près de l'Aquitaine. En revanche, en Corse, l'après-midi sera instable, notamment sur la Haute-Corse avec des averses localement orageuses. Le tout est à consommer avec une ambiance plutôt fraîche, 8 à 14 degrés en général pour cet après-midi avec 12 degrés à Paris, Saint-Omer, Pontivy ou encore Bordeaux. Autour de la Méditerranée, on attend 13 à 19 degrés.
Sébastien Léas, Météo France, nous parlons du système de santé français avec notre invité.
France Inter, le 13-14, Bruno Dujon.
Voilà une situation dont le profane ne voit pas la solution, alors que l'hôpital public a montré son utilité et ses fragilités. Ô combien, pendant la crise sanitaire, tout indique que près de 2 ans après le début de la pandémie, eh bien, cet hôpital est encore plus fragile. D'une récente enquête du Conseil scientifique sont sortis ces chiffres. 20% de lits fermés dans les hôpitaux, faute de personnel, personnel paramédical, mais médecin aussi, à tel point qu'une réforme qui devait limiter les rémunérations des intérimaires a été ajournée par peur qu'ils désertent l'hôpital. La tension est forte en particulier dans certains services d'urgence. Pourquoi le métier est-il aussi peu attractif, malgré les augmentations de salaire du Ségur de la Santé? Qu'est-ce qui boite dans l'organisation du système de soins, pourtant il y a peu considéré peut-être comme le meilleur au monde? Quels enseignements tire-t-on de la crise Covid? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions et témoignages, que vous soyez soignant ou patient à l'hôpital ou ailleurs. Avec nous jusqu'à 13h45, le fondateur du collectif Interhôpitaux, professeur de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris, André Grimaldi. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous publiez chez Odile Jacob Manifeste pour la santé 2022, à l'approche de la présidentielle. Constat sévère sur le système de soins en France et des pistes aussi pour s'en sortir. Un mot du Covid, la France semble se sortir plutôt mieux de cette nouvelle vague, André Grimaldi, que les autres. Est-ce que vous qui êtes très critique sur la gestion du Covid, vous constatez cela aussi?
Je suis moins critique sur la gestion de la vaccination, sauf au début. Au début, ça a été catastrophique, hein. Mais depuis, on a rattrapé, et c'est la vaccination qui nous protège. Alors, c'est pas une protection absolue.
Oui. Hein.
On sait que la contagiosité a diminué, mais continue, donc il faut continuer les mesures barrières. Par contre, le vaccin est très efficace sur les formes graves, notamment de réanimation.
Et la campagne de vaccination, après des débuts ratés, a bien pris en France, mieux que dans d'autres pays.
A bien pris en compte, et aujourd'hui, beaucoup de la population est vaccinée. Alors, il reste encore des personnes de plus de 65 ans, donc à risque, ou des personnes ayant des comorbidités, diabétiques, obésité, maladies cardiovasculaires, qui doivent se faire vacciner.
20% de lits fermés en cas de flash qui demandent à être confirmés par une étude plus approfondie, mais elle recoupe les témoignages extrêmement nombreux d'hospitaliers qu'on a pu lire dans la presse ces derniers jours. 20% de lits fermés faute de personnel à l'hôpital, alors que 10 milliards d'euros ont été consacrés aux revalorisations de salaire. Pourquoi, André Grimaldi, les métiers de l'hôpital, métiers paramédicaux, mais pas seulement, ne parviennent pas à recruter?
Parce que les conditions de travail se sont profondément dégradées. La motivation, elle est là. Hein. Faut savoir que chaque année, 1 million de jeunes postulent à faire des études soit de médecine, soit d'infirmier.
1 million.
1 million chaque année, plus. Hein. Alors, moyennant quoi, tous ne sont pas admis, évidemment, mais beaucoup partent. Dans les 5 ans qui suivent le diplôme d'État, un tiers des infirmières changent de métier. Pourquoi? Parce que leur métier a perdu le sens de leur engagement. Mmh. Et notamment les conditions de travail sont vraiment dégradées, pour la raison, alors bien avant le Covid, pour la raison qu'on a voulu traiter l'hôpital comme une entreprise, et une entreprise sous contrainte budgétaire.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, ça a commencé d'ailleurs avec les 35 heures, hein, les difficultés de conditions de travail. Vous avez des horaires variables. Un jour, vous commencez à 7 heures du matin, la semaine d'après, vous commencerez à 14 heures. Un jour, vous êtes dans un service, le lendemain, vous êtes dans un autre service. Vous êtes une infirmière pour 12 lits, il y a un absentéisme, eh ben vous voilà une infirmière avec 14 lits ou 15 lits. Bon, à la fin, il y a un cercle vicieux. Et, bon, c'est ce qui le sens du travail se perd et vous partez. Alors le Covid est intervenu à la fois comme fatigue de travail, mais aussi comme déception, parce que ce que vous dites, le Ségur, ça a été un Grenelle sur les salaires, assez important, 10 milliards, c'est pas rien, bien qu'on soit toujours en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, hein. Pour le salaire infirmier, on était en 28e position sur 32. On est passé à la 16e position.
Alors, comment rend-on le métier?
On n'a rien fait sur le fonctionnement de l'hôpital.
Comment rend-on le métier plus attractif? Parce qu'il y a des pistes aussi dans votre livre.
La première chose à faire, c'est que il faut reconstituer un travail d'équipe. Vous êtes un soignant, infirmière, aide-soignante, médecin, vous êtes dans une équipe, et une équipe stable. Vous voyez les malades dans la durée de leur suivi. Vous savez pas, une infirmière qui le voit le lundi, puis le mardi, ce sera pas elle, ce sera une autre. Donc vous êtes dans une équipe stable. Alors aujourd'hui, les infirmières sont embauchées non pas dans un service, mais dans un pôle avec plusieurs services, et on les mutualise d'un service à l'autre. Donc faut arrêter avec ça. Il faut que le budget de l'hôpital soit non pas des tarifs, qu'il y a des tarifs rentables, des tarifs pas rentables, et alors c'est le tarif qui va guider l'activité.
Tarification à l'acte.
La tarification à l'acte qui fait qu'on augmente au maximum l'activité. En 10 ans, on a augmenté de 15% l'activité, on n'a pas augmenté le personnel soignant. Le Ségur n'a pas prévu d'embauche de personnel. Il a prévu d'augmenter les salaires. C'est la première chose à faire. Et ensuite, il faut que donc il y ait un budget qui soit co-géré. Non pas une administration qui gère ça comme une entreprise, mais une co-gestion avec les soignants et la participation des soignants, notamment pour la qualité des soins.
Et l'articulation avec le privé. Alors, je voudrais qu'on entende le témoignage de Joseph. Bonjour, Joseph.
Bonjour.
Nous vous écoutons, vous nous appelez de Limoges.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une expérience que j'ai vécue il y a une semaine. C'est frais. Je téléphone au CHU pour aller prendre un rendez-vous pour un urologue. Oui. Et là, quelle n'est pas ma surprise de m'entendre dire « Vous le voulez en service privé, en système privé ou public ?» Privé, un mois d'attente, grosso modo, à quelques jours près. Public, 4 mois d'attente. C'est des mêmes pathologies dont on parle, c'est des mêmes lits dont on parle. Physiquement, enfin, je veux dire, on n'est pas sur un lit mieux fait, ou moins bien fait, quoi. Je veux dire, c'est... Et là, je suis tombé des nues. J'ai eu envie, depuis un certain nombre d'années, de me permettre, mais là, je sais que, juridiquement parlant, je pourrais être pénalisé, j'avais envie d'enregistrer ce genre de propos. Parce que la secrétaire m'a répondu sur un ton quasi badin, oui, public ou privé.
Alors, Joseph, on va soumettre...
Je ne sais pas si le toubib est rémunéré de façon différente s'il est en service public ou en service privé. J'arrêtais là parce que j'étais... Je suis tombé des nues.
Professeur Grimaldi.
Oui, c'est une histoire qui vient de très loin. C'est-à-dire qu'en 1958, quand on instaure le plein temps hospitalier, avant, les médecins travaillaient le matin à l'hôpital et l'après-midi en ville, où ils avaient une liberté d'honoraire. Alors en 1958, on instaure le plein temps hospitalier. Mais pour que les médecins viennent, il y a une concession qui est faite et vous aurez possibilité de faire venir votre clientèle privée. L'idée à l'époque de Robert Debré, qui était l'initiateur, le père du premier ministre de l'époque, était que ça durerait d'une génération. Et puis ensuite, ça s'est pérennisé. Et ça se pérennise pourquoi ? Qu'il y a une grosse différence de revenus, notamment pour les chirurgiens, notamment pour les anesthésistes, lorsqu'ils travaillent en ville, dans des cliniques, et quand ils travaillent à l'hôpital. Et alors, le paradoxe, c'est que le Ségur a dit, il faut augmenter l'activité libérale à l'hôpital pour maintenir l'attractivité. Parce que où est-ce qu'ils partent les médecins, les urgentistes ? Où est-ce qu'ils partent les anesthésistes ? Où est-ce qu'ils partent les chirurgiens qui disent « il y en a marre de travailler à l'hôpital ».
Et on ne peut pas leur reprocher, honnêtement, si le travail à l'hôpital, les conditions que vous décriviez...
Exactement. Ce qui se passe pour un chirurgien, c'est que ses conditions de travail se sont dégradées. Parfois, il dit « ah ben non, on ne peut pas opérer, le bloc n'est pas ouvert, il faut reporter le malade, etc. » Et il gagne moins qu'en clinique. Alors, on veut gérer l'hôpital comme une clinique en n'ayant que des inconvénients. Eh ben, le chirurgien s'en va. Alors, si on veut régler ce problème-là, il faut arrêter ce dépassement d'honoraires qui parfois sont exorbitants. Pour une prothèse de hanche, j'ai vu 3000 euros. Pour une hernie inguinale, 700 euros. Donc, faut arrêter ça. Faut qu'on ait un système intégré où il n'y a pas de disparité de mercato.
Mais quoi, on interdit les dépassements d'honoraires, on les rembourse pas, on demande aux mutuelles de ne pas les rembourser.
On peut pas avoir un système solidaire avec les dépassements que l'on veut.
Mais ça veut dire que concrètement, on fait pression sur les mutuelles, puisque c'est par là que ça passe, pour ne pas qu'il y ait de remboursement.
Ça serait logique si, écoutez, il y a le secteur 1, c'est-à-dire le secteur au tarif de la sécurité sociale remboursée, qui est l'immense majorité des médecins hospitaliers, l'immense majorité des médecins généralistes. Après, il y a les médecins spécialistes qui, souvent, sont en dépassement d'honoraires. Notamment parce que les tarifs de la sécurité sociale sont parfois dérisoires, pas adaptés du tout. Pour une chirurgie de la thyroïde, pour un cancer de la thyroïde, c'est pas adapté. Pour un cancer de l'œsophage, c'est pas adapté. Le chirurgien dit « je peux pas ». Donc ça suppose de revaloriser ses salaires. Et ensuite de dire, si vous voulez dire à votre patient « est-ce que vous avez une bonne mutuelle ?» La question qu'on pose actuellement, que les médecins spécialistes posent, « est-ce que vous avez une bonne mutuelle ?» Alors faut accepter que les mutuelles créent des réseaux et contrôlent la logique de ces dépassements. Et puis, il faudrait que la Sécurité sociale revalorise le secteur 1 et rembourse à 100% comme elle a fait dans la crise du Covid. Dans la crise du Covid, tout était gratuit par la sécurité sociale et il n'y avait pas de gaspillage.
On attend un rapport qui a été commandé par le gouvernement sur l'hypothèse d'un tout sécu. Est-ce que vous y seriez favorable, pardon, on oublie les mutuelles?
Alors, tout à fait favorable, c'est-à-dire qu'une sécurité sociale, mais ça suppose aussitôt de dire deux choses. La sécu va rembourser, grande sécu, ça veut dire elle rembourse à 100% les soins. Mais qu'est-ce qu'elle rembourse? Qu'est-ce qui relève de la solidarité? Qu'est-ce qui n'en relève pas? Vous avez vu l'histoire des tests. Il y a eu un moment donné, on dit les tests, vous y allez spontanément, ils seront remboursés. Et puis maintenant, on a la vaccination. Vous voulez continuer à pas vous vacciner, alors c'est un choix personnel, ça relève plus de la société, vous les payez.
Et de votre point de vue, c'est légitime cette décision?
C'est légitime. Vous les payez personnellement, vous les payez par une mutuelle. Il y a un seuil de soins de confort qui sont indiscutablement de confort. Bon, je pense à des cures thermales, vous êtes mieux après qu'avant, très bien. Est-ce que ça relève de la solidarité ou pas? Agnès Buzyn avait dit que l'homéopathie ne sera plus remboursée par la Sécu. Donc ça suppose ce problème-là. Deuxièmement, ça suppose pas de dépassement d'honoraires. Ou alors, dépassement d'honoraires sous contrôle des mutuelles. Hein, et on a un système très différent, c'est-à-dire qu'on arrête avec une spécificité française qui est que pour le même soin, vous avez une gestion par la Sécu et une gestion par la complémentaire, ce qui fait que en frais de gestion du système de santé, on est deuxième derrière les USA en dépenses, on est très au-dessus de la moyenne de l'OCDE, on dépense 7,5 milliards de frais de gestion pour les mutuelles et 7,3 milliards pour la Sécu.
Et il y a plus de personnel administratif dans nos hôpitaux que de médecins. Exact. Dites-vous, ça pose la question du budget de la Sécu, mais d'abord je voudrais qu'on entende Joël au standard. Bonjour Joël, vous nous appelez de Metz.
Oui, bonjour, je vous appelais de Metz. C'était pour évoquer un problème. J'ai une maman qui est en EHPAD sur Metz, donc à proximité d'ailleurs d'un beau CHU. Et dans l'EHPAD où elle se trouve, à l'heure actuelle, il y a 20 résidents qui n'ont plus de médecin attitré. Et l'EHPAD, qui est un ensemble de 3 EHPAD en fin de compte, ils n'ont plus de médecin coordinateur, ils n'arrivent pas à en recruter un. Donc ça a un lien par rapport au problème qui se pose entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Vous imaginez très bien les difficultés que rencontre l'EHPAD par rapport aux soins de ses résidents. Ils sont obligés de se tourner vers des choses qui normalement ne devraient pas exister. Faute de médecin traitant, qui ne peut plus faire l'interface par rapport à l'hôpital, et c'est très très compliqué. On n'est pas en zone rurale. En plus,
ouais, voilà, il y a même pas cet aspect-là. Professeur Grimaldi, oui. L'articulation,
ça c'est un énorme
avec
problème
la médecine
qu'on
de
a historiquement. On a un système qui fonctionne en silos séparés, l'hôpital, la ville, les médecins, les infirmières d'un côté. Il faut aller, alors, il y a des choses qui se font, hein, néanmoins, mais il faut aller vers un système intégré, hein, qui a un dossier partagé. Il faut le partager. Il faut qu'il y ait des infirmières spécialisées en France.
Dossier partagé, ça existe déjà?
Non, ça n'existe pas. En pratique, c'est en route toujours, mais ça n'existe pas. Hein. C'est très très minoritaire. Il faut que le dossier puisse être le même pour les infirmières, pour les médecins autour du patient. Il faut que des spécialités comme la médecine générale, la gériatrie soient complètement revalorisées au choix des internes. Arrivant que quoi en dernier, la psychiatrie qui est sinistrée en France. La gériatrie,
dont on a besoin avec le vieillissement de la population.
Et la médecine générale qui a progressé, mais qui est encore dans les derniers. Hein. Pour la première fois, d'ailleurs, le major a choisi la médecine générale. Mais avant, c'était très, très en dernier. Donc il faut changer ça, et il faut qu'il y ait une coordination, et le rôle des infirmières spécialisées de coordination est essentiel, qui font le lien entre les établissements de ville et l'hôpital.
Une dernière question, professeur Grimaldi, on arrive au terme de cet entretien. En quoi l'élection d'une partie des députés à la proportionnelle changerait la donne? C'est une des toutes dernières propositions de votre livre.
Ben c'est qu'on a un déficit de démocratie dans ce pays. Vous avez bien vu la gestion de la crise.
Et en quoi ça changerait le système de santé?
Ben, ça, ce serait qu'après, on a proposé, le collectif Interhôpitaux a proposé, par exemple, un référendum d'initiative partagée avec 200 députés. Et puis le Conseil constitutionnel a dit non. Où est-ce que les Français ont été interrogés pour savoir ce qu'ils veulent dépenser pour la santé? Est-ce qu'on dépense trop ou pas assez? Est-ce que les Français peuvent le dire à un moment donné? Vous votez pour une personne, homme ou femme, qui devient président de la République, et après il fait ce qu'il veut pendant 5 ans.
Merci André Grimaldi. Manifeste pour la santé 2022, c'est aux éditions Odile Jacob, 13h44.
France Inter. Le 13-14.
À suivre dans 10 minutes, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Landru aujourd'hui.
Le procès ouvrait il y a 100 ans par un mois de novembre froid.
À Versailles, vous nous raconterez ça. Le feuilleton dans notre tiers-lieu et l'importance de la librairie. Le tiers-lieu a reconstitué une librairie dans le village où il est installé. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Les championnats d'Europe de natation au petit bassin se déroulent actuellement à Kazan, en Russie. À cette occasion, un nageur multimédaillé est à votre micro, Frédéric. Le temps d'une chanson, c'est le très très grand de mètre 02, Yannick Agnel.
Le Nîmois, Yannick Agnel. Également surnommé le Squale, grand par la taille et par le talent, de titres olympiques et pas moins de 25 médailles d'or en championnat de France, d'Europe et du monde. Il a mis un terme à sa carrière internationale il y a 5 ans. Et c'est d'une chanson électro qu'il a choisi de me parler.
Le titre, c'est « As Above, So Below », avec un bel accent français, des klaxons. Et en fait, c'est un remix de Justice.
Que vous avez découvert à quel moment ?
Que j'ai découvert dans mes très jeunes années. Alors, ça doit être en seconde, quelque chose par là. J'ai choisi cette chanson particulièrement, mais ça aurait pu être n'importe quel autre du groupe Justice qui m'a accompagné, et je pense avec beaucoup d'autres jeunes gens à ce moment-là, dans toutes ces années lycée. Ça a été notre rock'n'roll à nous. C'est la première fois, en tout cas, qu'on entendait un son électro aussi saturé, qui vous déglinguait les oreilles et qui en même temps restait mélodieux et avec beaucoup d'empreintes musicales très marquées, des références à Metallica, des références à Michael Jackson. Donc voilà, c'était un moment de ma vie très important, puisque c'est celui où je suis parti à Nice pour vivre mon destin de de nageur de haut niveau. Et puis c'est un groupe qui m'a accompagné jusque derrière les plots, le casque vissé sur les oreilles. Et moi, c'était les sons complètement saturés et électroniques de Justice.
Justice avant de plonger.
Justice avant de plonger, ouais. Ah ouais. Justice pour les baigneurs.
C'est avec cette musique-là que Yannick Agnel se concentrait lors des compétitions.
La musique de Justice, groupe qu'il adore depuis toujours, mais avec lequel il entretient une histoire un peu contrariée. Il n'a jamais, jamais réussi à le voir en concert.
À chaque fois que j'en avais la possibilité, il se passait toujours un événement d'ordre supérieur.
C'est-à-dire sportif.
Sportif notamment. J'avais des places enfin pour un concert de Justice aux arènes de Nîmes en plus, un truc de dingue. Donc là, je suis originaire chez moi, effectivement. Et en fait, ce jour-là, c'était le jour de la finale de mon 200 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Londres. Donc il a fallu choisir entre les deux et ça n'a pas été facile.
35 mètres encore pour le titre. Yannick Agnel qui commence à accélérer. 25 mètres, c'est une démonstration. Yannick Agnel offre magistralement une troisième médaille d'or à France. Stratosphérique, énorme, phénoménal. Yannick Agnel est le roi de ces Jeux Olympiques.
Mais pour revenir sur l'aspect vraiment natatoire de la chanson, à l'époque, on était assez novateurs à Nice dans la manière de préparer les entraînements et on avait des entraînements où on devait nager en rythme, une chanson dans les oreilles avec des oreillettes waterproof. Et Justice faisait partie des groupes que l'on mettait pour nager en rythme et nager avec les émotions que ça devait nous procurer.
C'est bien pour quelle nage ?
Pour nager vite et énervé. Mais pas seulement. Il y a un côté très aquatique, je trouve aussi, parfois, à leur musique. Très liquide, amniotique. Et celle-ci rappelle beaucoup de souvenirs, collège, lycée, ça a été des moments merveilleux où, au lieu de suivre les cours de maths, on avait l'oreillette qui passait à travers la manche du pull, comme le faisait beaucoup de monde, avec la main plaquée à bien écouter la musique au lieu du prof, ce qui m'a valu une note déplorable en maths au bac. Mais au moins, on a profité de ces émois musicaux pendant des années, avec Justice en tête de gondole.
Donc à cause de Justice. Une sale note en maths au bac.
Mais beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur et des performances dans l'eau, ouais, ils y ont été pour quelque chose.
As Above, So Below, Klaxon, remixé par Justice. C'était donc Frédéric, le choix du nageur Yannick Agnel.
Dont on aura compris qu'il est un peu plus littéraire que matheux. D'ailleurs, hier, il a déposé le manuscrit de son premier roman.
Ça alors.
Les Racines du Soleil, qui paraîtra en janvier aux éditions Artaud.
Et nous aurons écouté cette semaine du Gauvin Serres, du Soufiane Stevens, du Léonard Cohen, du Claude François. Et donc Klaxon, remixé par Justice. Bravo pour la diversité.
À lundi.
Bon week-end. Le feuilleton, dernière étape dans notre tiers-lieu de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde, cœur de Bastide, lieu de convivialité, d'activité, dans une commune qui avait besoin de se redynamiser comme beaucoup en zone rurale. Il y en a aussi dans les métropoles. Hein. Cœur de Bastide, bâtiment de près de 500 mètres carrés, c'est à la fois un bureau pour des créateurs d'entreprises, un lieu où on trouve de l'aide pour les démarches administratives, l'accès au numérique, des bureaux pour les associations locales, une salle de cinéma et puis... Cœur de Bastide joue un rôle pour l'éducation et la culture dans la commune aussi. C'est l'épisode 5 du feuilleton qui est signé Yann Gallic.
Un S et un I, ça fait quoi ?
Un I, ça fait I.
Tu viens faire tes devoirs ici ?
Oui, maman.
Tu as quel âge ?
6 ans.
Et tu viens toutes les semaines ici pour faire tes devoirs ?
Parfois.
C'est mieux que de faire les devoirs à la maison ?
C'est mieux ici, parce que ça nous aide. À la maison, c'est dur, parce que moi, après, il n'y a personne qui m'aide à la maison.
Le U. Attends, mais refais-le. Regarde bien le mot que t'as écrit.
Moi, je suis Catherine, donc je participe à Cœur de Bastide en tant que salariée depuis cette année. Avant, je faisais du bénévolat ici. Je fais de l'accompagnement scolaire et je fais aussi la nounou, entre guillemets, des étudiants qui passent leur campus connecté. Tous les adultes qui sont là pour l'accompagnement scolaire sont des bénévoles.
Et vous, Catherine, vous faisiez quoi avant d'être salariée ?
Oh là là, j'ai fait plein de choses. Avant, je travaillais dans une école et un collège privé. J'étais jetée à la porte de l'école privée comme une malpropre après 25 ans de travail. Je me suis retrouvée au chômage. Comme j'ai été un peu malmenée à la fin de mon travail dans cette école catholique, je me suis sentie, comment dire, vraiment très mal dans ma peau. On m'avait complètement enlevé ma confiance en moi et je l'ai retrouvée à Cœur de Bastide. Parce qu'ils m'ont donné des responsabilités, ils m'ont dit « bon, mais tu vas t'occuper des enfants puisque tu sais faire et que tu as déjà fait ». Je trouve que toutes les entreprises devraient fonctionner de cette façon-là.
Nous allons aller maintenant du côté de la librairie où on va retrouver une autre Catherine.
Je m'appelle Catherine, je suis bénévole à Cœur de Bastide depuis 7 ou 8 ans et j'ai initié un petit peu la petite librairie que vous voyez là.
Il y a des livres pour enfants, des livres de poche, les nouveautés de la rentrée littéraire.
Oui, alors en fait, nous sommes plutôt un dépôt de livres puisque le stock appartient à la Colline aux Livres qui est une librairie de Bergerac qui nous met en dépôt des livres et nous vendons pour cette librairie. Nous avons aussi un certain nombre d'éditeurs et d'auteurs locaux qui nous laissent leurs livres en dépôt. Nous organisons également, pour promouvoir ces livres, nous organisons des dédicaces. Ça leur permet un petit peu de vendre. Et après, on les garde en librairie et les gens peuvent venir les acheter sur place.
Il n'y a pas de librairie dans la commune ?
Il n'y a plus de librairie dans la commune et donc c'est pour ça que nous avons décidé d'ouvrir cette petite librairie pour pallier ce manque. Et puis bon, ça nous ennuyait aussi que les gens passent par Amazon ou alors aillent au rayon culture du centre Leclerc. C'est surtout le samedi matin que nous voyons du monde puisqu'il y a le marché. Les gens passent, puis les habitués viennent nous commander. Ils savent qu'ils peuvent nous commander tous les livres dont ils ont envie. Ça leur évite de se déplacer jusqu'à Bergerac.
C'est aussi la vocation d'un tiers-lieu comme celui-ci, de proposer des activités culturelles.
Tout à fait. Dans ce milieu rural, la culture est un petit peu mise à mal. Et si on peut arriver à relancer quelque chose sur ce plan-là, on essaie d'apporter notre petite pierre. On travaille beaucoup avec les habitants, c'est ça qui me plaît beaucoup, et je crois qu'on arrive à mettre en place des choses qui avaient disparu depuis un certain temps.
Le feuilleton à cœur de Bastide, reportage Yann Gadic, réalisation Lucie Lemarchand. C'est à réécouter tous les épisodes sur franceinter.fr, une semaine dans leur vie, et sur les bonnes plateformes de podcast également.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, sait-on jamais où va une femme quand elle vous quitte, chantait Gainsbourg en citant Landru. Il y a 100 ans s'ouvrait le procès d'un des criminels les plus célèbres de l'histoire judiciaire. Landru, donc, c'était à Versailles, dans ce qu'on appelait alors le département de Seine-et-Oise. Il n'est pas sûr qu'on puisse aujourd'hui retrouver Jean dans une cour d'assises de la même atmosphère mondaine que celle qui entourait le procès de novembre 1921.
Puisque vous parlez chanson, traînait à chanter dans la rue aussi. Mmh. Et les complaintes qu'on chantait dans les rues interrogeaient de ce monstre à face humaine qui dira tous les forfaits de ce barbe bleue, de ce croque-mitaine. Et les journaux détaillaient les qualités des quelques 10 femmes qu'il avait prises dans ses raies et qui avaient disparu. Leur corps sans doute brûlé dans la cuisinière de sa villa de Gambet où il leur avait d'abord offert des roses du jardin. Le programme des assises avait de quoi attirer les curieux, et ils furent nombreux à monter à la gare des Invalides dans le train de 10 heures, qu'on appela le train Landru. La cour joua toujours à guichet fermé, les journalistes étaient très nombreux, français, étrangers, une petite société des nations. Versailles avait été peu avant le siège des négociations de paix. Et Landru parut, la barbe bien taillée, l'œil vif, profondément enfoncé dans les orbites, une prunelle de fakir. On l'accusait, et impassible, il prenait des notes. De temps en temps, il lâchait un mot d'esprit. « On m'accuse de 10 meurtres, je suis désolé de n'avoir qu'une seule tête à vous offrir. » En réalité, il cherchait moins à afficher son innocence qu'à sculpter son profil, celui du plus grand accusé de l'époque.
Et l'autre tête d'affiche du procès, c'était son avocat.
Ben, maître de Moreau, Giafferi, célèbre depuis sa plaidoirie dans l'affaire de la bande à Bonneau. Il était adepte lui aussi du mot d'esprit. Député de Corse, il faisait rire ses électeurs. « Nous sommes, leur disait-il, une île qui exporte des fonctionnaires et importe des retraités. » Il répétait que pour prouver que son client était un assassin, il aurait fallu d'abord produire des cadavres. Or, il n'y en avait aucun. « Supposez, disait-il, qu'un parent d'une des disparues veuille récupérer son mobilier. Eh bien, l'administration lui répondrait qu'elle n'est pas déclarée morte. » Et, poursuivait-il, « sachez que cette porte derrière vous, là, elle pourrait s'ouvrir et voir réapparaître ces dames. » Et à cet instant, toutes les têtes se retournèrent vers la porte. « Voyez ?» s'apprêtait à conclure Moreau Giafferi. Mais l'avocat général lui fit remarquer « Landru n'a pas levé les yeux, lui. » Aux 48 questions posées, le jury répondit « oui » et le verdict de mort fut prononcé. Alors Landru reboutonna soigneusement son pardessus, vérifia qu'il avait bien ses lunettes et disparut entre deux gendarmes.
Ce procès ne prit une telle importance que parce que nous étions au lendemain de la guerre.
Bah bien plus, sans la guerre, Landru serait resté un escroc à la petite semaine, un homme de petites affaires. Et la guerre lui a donné de l'audace et a empêché qu'on s'intéresse de près aux disparitions qu'il multipliait. Son procès a terminé une année commencée par l'inhumation du soldat inconnu. Alors, on peut oser l'hypothèse qu'après un carnage de 4 ans et l'hécatombe de la grippe espagnole, l'affaire Landru a apporté de la distraction, le plaisir d'une douceur, d'une liqueur après le repas, l'occasion de conversation qui donnait un frisson sans qu'on ait à trembler de peur. Comparaison n'est pas raison, mais 10 femmes évaporées en pleine guerre. Ça n'a rien à voir, je viens aujourd'hui, avec l'entassement des morts de la fosse du Bataclan par temps de paix, ni avec la cour d'assises spéciale qui siège aujourd'hui au palais de justice de Paris. D'ailleurs, il paraît qu'il y a eu parfois des places libres dans le public de cette cour. Alors que, en 2021, la curiosité n'est plus attisée par les exécutions publiques, rappelons que celle de Landru, devant la prison de Versailles, 24 février 22, attira encore du monde. Ah si, il y a une permanence. La rumeur a couru qu'un prisonnier obscur avait été substitué à Landru sous la guillotine et que notre homme avait survécu en Argentine, doté d'une rente par des ministres du gouvernement français avec qui il aurait partagé les plaisirs de la traite des blanches. Alors quand on entend certaines histoires qui circulent aujourd'hui, on se dit « Ouf, 2021 ressemble encore à 1921 quand il s'agit de verser dans l'irrationnel. »
Parmi les livres à lire sur Landru, Landru Bourreau des Cœurs, signé Gérard Jäger, c'est aux éditions de l'Archipel. Intelligence Service, samedi, demain.
Elias Canetti, Masse et Puissance, prix Nobel de littérature 81.
Et dans 3 minutes, un peu plus, La Terre au Carré, le grand reportage de La Terre au Carré, tourisme aux Maldives, un paradis d'enfer.